Lydia Kang, bonjour. Alors, très heureux de vous retrouver à l'occasion de votre nouvelle BD, G.I. Gay, qui est paru aux éditions depuis dans la superbe collection Air Libre. Alors, on sait que les recherches préalables, ça ne vous rebute pas, que ça soit la bombe, que ça soit un whisky sun. Est-ce qu'ici, ce fut un travail aussi fastidieux que le précédent?
Mais fastidieux, c'est peut-être pas le terme parce que je prends beaucoup de plaisir à me documenter, mais par contre, ça a été un travail très long aussi, puisque en fait, mes premières recherches et les premières étincelles sur ce projet, ça date de 2011. À l'époque, je suis tombé sur un article qui expliquait que Barack Obama avait abrogé la loi qui discriminait.
1 septembre 2011.
Voilà. Oui, c'est un projet de longue haleine. Je me suis pas mal documenté, j'ai recherché à cette occasion pas mal d'articles sur Internet, puis j'ai lu des livres, etc. Donc oui, il y a une grosse recherche de documentation derrière ça.
Donc c'est cet article qui a été l'élément déclencheur qui vous a donné l'envie d'aller creuser. Parce que finalement, la loi, donc comment on appelle le Don't Ask, Don't Tell, d'idée, date de 1993.
Voilà.
Et donc... Pour faire ce flashback de la guerre, qu'est-ce qui a eu, quel a été l'élément déclencheur?
Ben, en fait, c'est vraiment en lisant cet article, je me suis rendu compte que la loi que Barack Obama avait abrogée, donc cette fameuse loi Don't Ask, Don't Tell, avait été mise en vigueur, enfin, était entrée en vigueur sous l'ère Clinton. C'est Bill Clinton qui avait instauré cette loi. Et c'était une loi qui, de fait, discriminait encore les homosexuels à l'armée, mais était déjà une nette amélioration par rapport à ce qu'il y avait avant. Et avant 93, les homosexuels ne devaient carrément pas du tout entrer à l'armée. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, il y a eu une époque qui n'est pas si lointaine que ça. Là, on parle des années 40-50, où les homosexuels aux États-Unis étaient considérés vraiment comme des... ou mieux, comme des malades mentaux, et on les envoyait dans des hôpitaux psychiatriques se faire soigner à une décharge électrique parfois. Et au pire, effectivement, comme des criminels pour m'envoyer en prison. Donc c'est ça qui m'a intéressé, de se dire, mais tiens, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des soldats homosexuels qui étaient tout à fait prêts à se battre pour leur pays, les États-Unis. Et malgré ça, on les éjectait, voire on les persécutait, simplement pour leur orientation sexuelle.
Quand vous avez préparé cet ouvrage, est-ce que vous avez pris contact avec la communauté LGBT qui a pu se...
Oui.
Demander éventuellement peut-être conseils ou des sources.
Oui. J'ai des connaissances homosexuelles. Il y a notamment Manuel Picot que je connais, qui est remercié dans l'album d'ailleurs, qui est un militant pour la cause homosexuelle, qui m'a pas mal aidé sur le sujet. Et aussi, simplement, comme d'habitude, j'étais me renseigner sur Internet. Il y a des forums, il y a beaucoup de sites Internet dédiés aux droits des LGBT, etc.
Alors, sujet tabou, j'ai comme l'impression que c'est un peu le même effet explosif que le Brokeback Mountain dans l'univers du western, finalement.
Oui, mais c'est vraiment une espèce de Brokeback Mountain chez les G.I. Hein. Brokeback Mountain après Pearl Harbor, dans la guerre du Pacifique. C'est un peu comme ça que j'ai vendu le projet. Et c'est vrai que Brokeback Mountain, c'était avec des cow-boys qui ont aussi une image de virilité, etc. Ici, c'est l'armée, c'est peut-être encore un cran au-dessus. Et oui, je crois que l'homosexualité reste encore tabou, reste encore assez rejetée de nos jours. Il y a encore des problèmes à Bruxelles. On a parlé tout récemment d'agressions vraiment ciblées sur les homosexuels. Donc c'est un combat qui n'est pas encore tout à fait terminé, je pense, pour les droits des homosexuels.
Quand on vous lit, on a l'impression que cette chasse à l'homo, c'était peut-être dû au fameux mien que le gouvernement avait dû décaisser à l'issue de la Première Guerre mondiale pour les maladies psychiatriques. Et on ne voulait que recommencer le même travail, les mêmes défenses.
C'est ça. Donc, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, l'armée américaine a accepté toutes les recrues qui se présentaient. Et ensuite s'est retrouvé à parfois devoir prendre en charge des frais psychiatriques de personnes qui avaient subi des chocs forcément pendant la Première Guerre mondiale. Et ça a coûté un énorme budget à l'armée américaine. Et donc c'est pour ça que quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé, quand les États-Unis sont entrés en guerre, ils ont mis toute une série de filtres en place pour éviter que ne rentrent dans l'armée toute une série de personnes qui, selon l'armée, pouvaient poser problème. Et donc, ils ont listé les alcooliques, les dépressifs, les mythomanes, les kleptomanes, etc. Mais dans cette fameuse liste, ils ont inclus les homosexuels, donc rebelotes, qui étaient vraiment traités à l'époque comme des malades mentaux, quoi.
C'est fou, non ?
Ouais.
Se rendre compte qu'en 1940, la sodomie est un crime militaire passible de la cour martienne et puni par le renvoi déshonorable, c'est un beau terme, et 5 ans de travaux forcés. Mais je me demande quand même comment ça se fait qu'on n'avait quand même pas autant de militaires qu'on voulait et qu'on était parvenu quand même à se permettre d'en dégager certains, comme s'il y avait à la limite trop de demandes pour rentrer à l'armée.
Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied, évidemment, de sprinter de recrues qui étaient tout à fait prêtes à se battre pour leur pays. Et d'ailleurs, ça a eu un autre effet pervers. Donc, non seulement on rejetait des recrues qui étaient vraiment prêtes à se battre pour leur pays, mais en plus, il y a eu un autre effet pervers, à savoir que certains, au contraire, qui n'avaient pas envie, qui avaient peur de partir à la guerre et de faire leur devoir, se sont fait passer pour homosexuels pour échapper à ça. Oui, j'en fais une scène aussi dans l'album. Donc, c'était une loi qui n'était pas adaptée à la réalité, on va dire.
Parce que finalement, ça aurait pu être comme les Noirs qui souvent étaient engagés comme chairs à canon, on aurait pu aussi rendre ces homosexuels pour les envoyer au fond, non ?
Oui, alors à la différence près que l'homosexualité, c'est difficile de cacher qu'on est à la fois américain et noir, ça se voit à la couleur de peau, mais par contre, les homosexuels, étaient forcés de cacher leur identité, donc on ne savait pas les distinguer. Et alors, c'est assez intriguant aussi, intéressant de voir que cette fameuse loi qui punissait qui faisait la sodomie, à un moment donné, ils ont changé ça parce que forcément, c'était un peu difficile de les prendre sur le fait. Et donc, comme l'armée américaine voulait exclure les homosexuels, ils ont élargi ça en disant que finalement, de simples tendances homosexuelles suffisaient à se faire écarter. Ici, on ne devait plus être pris sur le fait, mais voilà, il suffisait que. On démontre ou on montre des tendances homosexuelles pour être écarté de l'armée.
Mais il était comment sur le ticket bleu ?
Le ticket bleu, c'est un document administratif qui sanctionnait le renvoi de l'armée pour raison déshonorable, comme ils appelaient ça. Et donc, quand un homosexuel était débusqué, entre guillemets, il se faisait renvoyer de l'armée, on lui donnait un ticket bleu et qui attestait qu'il était renvoyé de l'armée pour raison déshonorable. Et du coup, ça posait toute une série de problèmes à ces personnes-là, puisque quand elles rentraient aux États-Unis et qu'elles recherchaient du travail, etc., c'était dans leur dossier quelque part. Et donc, c'était mal vu, forcément. Ça les empêchait de retrouver souvent un emploi.
Ah, on a parlé de cacher des faits, mais dans l'ouvrage, vous parlez aussi. Vous parliez aussi de Jules César, de Laurent Zabi.
Oui, oui.
C'est assez surprenant quand même qu'on découvre, comme si on avait arraché des pages d'histoire que vous êtes en train de réécrire.
Mais oui, il y a eu des grands militaires, Jules César, Alexandre Grand, Laurence d'Arabie, etc., qui étaient homosexuels, et visiblement ça les a pas empêchés d'avoir une carrière militaire assez intéressante, on va dire. Et donc, c'est quelque chose que l'armée a un peu
colorisé,
on va dire. Voilà, oui.
Une chose difficile à comprendre, surtout actuellement, c'est cette notion de faire son devoir de patriote.
Oui.
C'est incroyable que, comme tout le monde était prêt à s'engager, c'est bien réel, ça ou c'est ce qui reste comme souvenir?
Non, je crois que c'était réel. Il y a vraiment eu un afflux massif pour recrues quand les États-Unis ont subi Pearl Harbor, quand Pearl Harbor a été attaqué par les Japonais. Je crois que ça a vraiment été un traumatisme pour les Américains. Et donc, oui, il y a énormément d'Américains qui, tout d'un coup, se sont pressés pour entrer à l'armée et comme recrues et pour aller se battre sur le Pacifique ou en Europe.
Un peu sujet d'actualité aussi, quand on voit la guerre d'Ukraine, où finalement, énormément d'Ukrainiens se sont présentés, ont aussi voulu défendre leur patrie. Par contre, 2 ans après, on en arrive à finalement promulguer des lois pour mobiliser davantage de troupes parce que les gens essaient de fuir. Est-ce qu'il y a, un parallèle aussi? Est-ce qu'on a caché certains points de l'histoire, comme en 40, comme finalement peut-être on le cache maintenant, pour éviter de dire qu'il y a une désertion quand même assez importante?
Là, je ne sais pas trop. Je dois dire que je ne connais pas. J'ai moins suivi l'actualité récente, notamment avec la guerre en Ukraine, dont on parle moins. Mais oui, je pense que chaque fois qu'il y a, une guerre, il y a forcément une barre de propagande et de recrutement qui doit se faire. Donc, il y a une espèce de marketing de la guerre qui doit se faire. C'est sûr.
Dans vos remerciements, vous citez Jean-Madame Voyander et Commande.
Oui, Jean-Madame, scénariste de 13, Largo Winch, Top Gun, etc. Bien connu, immensément connu. J'ai eu la chance de travailler avec lui. Et je m'entends bien avec lui depuis quelques années. Maintenant, on a fait la série Rallye ensemble. J'ai fait un 13 Mystery aussi sur lequel j'ai pu travailler avec lui. Et donc, quand j'ai écrit ce scénario, son avis m'intéressait. Donc, je lui ai envoyé le scénario en lui demandant ce qu'il en pensait. Et il a été très positif sur le scénario. Il m'a dit notamment que pour lui, ça lui faisait encore plus penser à un bon film qu'à une bonne BD. Donc voilà,
c'était... C'est compliment, sympa.
Oui, tout à fait. C'était sympa de savoir qu'il appréciait l'histoire. Ouais.
Alors, vous avez collaboré avec Bernard Dobros. Un petit peu votre travail, comment ça s'est passé? Quels étaient vos échanges et la fréquence de vos rencontres, finalement?
En fait, j'avais écrit la plupart du scénario avant de rencontrer Bernardo. Le scénario avait déjà été accepté par les éditions depuis. Et on cherchait un dessinateur. Et j'ai eu, par hasard, j'ai passé en fait des dessins de Bernardo sur les réseaux sociaux, parce qu'on avait un ami commun. Et en voyant ces dessins, j'ai vraiment flashé dessus en me disant, mais c'est tout à fait ça qui conviendrait, c'est des beaux dessins. En fait, je cherchais vraiment un dessin qui soit à la fois très réaliste, mais qui ne soit pas froid. Il y a certains dessinateurs, je trouve, qui ont un dessin très détaillé, ultra réaliste, mais qui est limite du coup du roman photo, et un peu froid. Et Bernardo, je trouve, au contraire, ça reste très réaliste, très détaillé, mais il y a une vraie sensibilité, on vient vraiment à faire passer des sentiments à travers les regards, les expressions, tout ça. Et son dessin était parfait pour le projet. On l'a contacté, on lui a expliqué le projet, ça lui a bien plu. Et donc, il s'est retrouvé engagé comme ça sur le projet. Et à partir de là, les échanges ont été assez classiques, je dirais. Je lui envoyais mon découpage, il faisait des crayonnés, une ancrage, la couleur, etc. Il a fait lui-même les couleurs. Donc, tout s'est bien passé. Ça a été un travail de longue haleine, parce que c'est quand même un gros bouquin, il fait 122 pages. Donc voilà, ça a pris du temps, mais le bébé, ça en valait la peine.
Comme disiez, deux projets de 2011, vous aviez dans votre tiroir, il y a un projet comme ça, vous êtes dans Stacambis, finalement, dans la bande dessinée, vous?
Oui et non, j'ai pas une énorme productivité comme scénariste. J'essaye de faire 3-4 albums par an, mais bon, ici c'est un gros album, donc ça a pris 8 ans. J'ai fait la bande qui a fait 450 pages, c'était aussi énorme. Mais j'adore l'histoire, j'adore me renseigner, mais tout ça prend du temps. Donc je suis pas sûr que je vais avoir toujours beaucoup d'albums qui vont sortir chaque année. Mais oui, j'ai un certain nombre de projets. Donc voilà. Mais bon, prochain album, ce sera la suite des Piliers de la Terre, le tome 2, qui va sortir en octobre, le 23 octobre. Et puis j'ai d'autres projets, mais plus embryonnaires à ce stade.
Non, bon, dernière question, c'est à la fin de votre album, on a cette chanson finale, je vous en ai déjà parlé, de toute façon, il a échangé avec moi, My Buddy. Alors, en me renseignant, donc, elle avait été écrite par Gus Kahn et composée par Walter Donaldson en 22. Henry Beer l'avait chanté à l'époque, et il avait chanté tous les couplets. Oui. À l'inverse, quand on voit que Sinatra, que ce soit le père, la fille, que ce soit Barbara Streisand ou Lena Horne, finalement, ont supprimé certains couplets et de conserver finalement que les premiers. Et avec, justement, même en entendant Henry Beer, il y a une différence entre le Grey Days, oui, et le Gay Days, finalement. Oui.
Mais il y a les deux paroles dans la chanson. Il y a le gay.
On entend moins le gay, là.
C'est possible. Mais je sais qu'en fait, je suis tombé sur cette chanson. On en parlait dans un livre sur le sujet de l'homosexualité pendant la Seconde Guerre mondiale, où c'était une chanson qui était assez populaire à l'époque, notamment parce que dans l'armée, ils travaillaient vraiment, ils favorisaient ce système de goodies, voilà, la camaraderie, en formant des espèces de paires de soldats pour que chaque soldat soit au moins assuré qu'un autre soldat veille sur lui. Et évidemment, certaines de ces relations de camaraderie sont devenues plus que de la camaraderie. Il y a eu des couples qui se sont formés comme ça. Et c'est devenu une chanson assez populaire dans le milieu homosexuel à l'époque. Et c'est une chanson qui, effectivement, quand on regarde les paroles, ont peut-être un double sens.
C'est vrai que se dire que Sinatra et Streisand chantent cette chanson-là, c'est vrai qu'on est un peu surpris quand même. Oui. Sauf si, bien entendu, on a effacé tout l'aspect de cette chanson.
Mais je pense que certaines personnes ne se sont pas rendues compte de...
Est-ce qu'il y a bien dit enfin?
Certaines personnes ne se sont pas rendues compte probablement du double sens. À l'époque, c'était moins évident de le jouer. Mais c'est aussi une chanson qui a été reprise et reprise à de nombreuses entreprises. Je pense que ma chanson date à l'origine des années 20 à Taoïs.
Dédé, encore un grand merci. Donc, on rappelle, J.I. Gay sort aux éditions depuis collection Air Libre avec comme dessin Bernard Dorn. Merci.
Merci beaucoup. Ouais.